Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La France va-t-elle bientôt voir les premiers effets du reconfinement ? Même si le gouvernement voit une forme de ralentissement de l'épidémie, le pays a passé ce week-end la barre des 40 000 morts à cause du Covid-19. À Marseille, l'hôpital de la Timone a doublé son nombre de lits en réanimation, mais il reste submergé, nous irons sur place.
Le télétravail à 100%. Dès que c'est possible, à partir d'aujourd'hui, nous nous interrogerons sur les sanctions auxquelles s'exposent les employeurs réticents.
Dans ce journal aussi, le Covid-19 sous l'ère Joe Biden aux États-Unis. Le président élu veut mettre en place une cellule de crise dès ce lundi. Après Donald Trump, on efface tout et on recommence, vous l'entendrez.
Après la présidentielle aux États-Unis, Frédéric Saïs s'interrogera sur ce qu'Emmanuel Macron peut espérer de ce changement, son billet politique à 8h16.
Avant cela, dans cette édition encore, nous irons en Biélorussie où 800 personnes ont été arrêtées hier parce qu'elles participaient à un rassemblement contre le président Loukachenko. La chef de l'opposition en exil en appelle à Joe Biden.
Et puis Jean-Luc Mélenchon propose sa candidature à la présidentielle de 2022. Il sollicite une investiture populaire de 150 000 signatures. Analyse à suivre.
Nous ferons le point enfin sur le succès notable des livres numériques. Évidemment, les confinements y sont pour beaucoup. Ce sont de tristes records. Les seuils enregistrés lors de la première vague de Covid-19 en France sont peu à peu franchis dans le pays. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pic de mortalité observé au printemps dernier a été dépassé. Alors que le pic de cette seconde vague, lui, n'est pas encore atteint, selon les médecins. Pour faire face à l'afflux de nouveaux patients à Marseille, l'hôpital de la Timone vient de doubler ses capacités en lits de réanimation, passant de 62 à plus de 120. Mais cela ne suffit pas, comme l'a constaté Romane Porcon.
Le service de réanimation est submergé par l'afflux de patients.
Ce patient, il a 55 ans, 35 jours de réanimation. Pourtant, il n'avait aucun antécédent.
Pour le professeur Lionel Velli, anesthésiste et réanimateur, le constat est dramatique.
Dans les Bouches-du-Rhône, on a plus de 35 morts par jour. C'est déjà plus élevé que lors de la première vague. Et on n'est absolument pas au pic. Là, on est à 127 lits de soins critiques à la Timone, donc on a doublé notre capacité. La limite après, ça va être les respirateurs. On a acheté énormément de respirateurs, plus de 80, on va être en difficulté si ça ne s'arrête pas.
L'autre inquiétude, évidemment, ce sont les moyens humains.
Ce capacitif, il n'est plus augmenté par des recrutements d'infirmières, on n'en trouve plus. Il est augmenté par l'arrêt des blocs opératoires pour prendre des infirmières anesthésistes, qu'elles travaillent avec nous.
Il faut aussi réorganiser tout l'hôpital avec des lits de réanimation éphémères. Sophie Roure est infirmière en réanimation.
Cette salle accueillera normalement 12 patients de réanimation non-Covid. D'habitude, c'est une salle de réveil qui accueille les patients post opérés, des patients qui restent 2 heures. On crée un service continu 24/24, donc on surcharge les salles. Ça devient compliqué à gérer.
L'hôpital recherche toujours des infirmières pour renforcer les rangs.
Romane Porcon depuis Marseille. Même sentiment à Roubaix dans le Nord, où nous emmenait ce matin Tara Schlegel pour le reportage de la rédaction, à retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Ce week-end, le seuil des 40 000 morts liés au SARS-CoV-2 a été dépassé en France. Il est trop tôt pour voir les effets du reconfinement et pour savoir s'il sera levé à Noël. C'est ce que disait hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour limiter un peu plus la circulation de ce virus, les cours à distance sont de retour au lycée à partir d'aujourd'hui. L'idée est de proposer aux élèves la moitié de leurs cours en distanciel, l'autre en présentiel, sur demande du ministère de l'Éducation nationale. C'est pour limiter par ailleurs les déplacements que le télétravail en entreprise devient la règle ce lundi. Fini l'adaptation, les employeurs doivent s'y mettre dès que c'est possible. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a rappelé en fin de semaine dernière que les patrons récalcitrants s'exposaient à des sanctions. Mais que risquent-ils vraiment ? Anne-Laure Jumet a posé la question à Thierry Meillat, avocat en droit social.
Les moyens de sanction du gouvernement sont relativement limités et devraient prendre surtout la forme en réalité de mise en demeure de la part des services de l'inspection du travail à l'occasion de visites qui seraient faites dans les entreprises, sachant que les inspecteurs du travail ont un droit absolu de se rendre dans les entreprises. Un inspecteur du travail qui constate en fait un manquement au respect des règles et qui donne à l'employeur un certain délai, dans le cas présent, ce serait de faire en sorte que des salariés qui peuvent aller travailler et dont l'inspecteur constaterait qu'ils sont dans l'entreprise, pour que ces salariés soient mis en télétravail dans un certain délai qui pourrait être assez bref. Et si, à l'issue de ce délai, l'inspecteur du travail constate que ces préconisations n'ont pas été respectées, là, il peut saisir la justice en urgence, hein, donc en référé, pour obtenir effectivement que cela soit ordonné à l'employeur sous astreinte. Donc, c'est pas des procédures simples. En revanche, l'inspecteur du travail a parfaitement la faculté de procéder à ces mises en demeure qui, en général, ont quand même un effet assez dissuasif.
C'était Maître Thierry Meillat, avocat au sein du cabinet Hogan Lovells. Regardons maintenant ce qu'il se passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où les chiffres de contamination au Covid-19 se sont aussi envolés, plus de 100 000 par jour, pendant que la population, elle, avait les yeux rivés sur l'élection présidentielle. Le 46e président des États-Unis est désormais connu, Joe Biden, démocrate, 77 ans, qui a tout misé ou presque sur des arguments anti-Trump pendant la campagne. Pour gérer la crise du Covid-19, là encore, il promet l'inverse du président sortant. Grégory Phillips, bonjour.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Grégory, Joe Biden promet une cellule de crise pour lutter contre le Covid-19. Sait-on à quoi elle va servir et qui la composera ?
Oui, alors c'est une cellule de crise, une commission qui va être composée de 12 personnes, des experts, des scientifiques, des médecins et notamment le docteur Vivek Murthy, qui est l'ancien directeur de la santé publique, nommé par Obama et remercié par Donald Trump. Vous voyez évidemment le symbole. 12 personnes que Joe Biden a donc chargé de préparer un plan de lutte contre le virus qui, promet-il, sera mis en place dès son premier jour à la Maison Blanche le 20 janvier parce qu'il y a urgence. 10 millions de cas aux États-Unis. Le virus a causé la mort de plus de 237 000 Américains. Cette cellule a donc 2 mois et demi pour finaliser ce plan. Joe Biden et Kamala Harris, qui ne sont pas encore au pouvoir, évidemment, prévoient de faire des points réguliers à la télévision et sur les réseaux sociaux pour informer les Américains des travaux de cette équipe de scientifiques.
Et Joe Biden, Grégory, veut aussi revoir les règles sanitaires en vigueur aux États-Unis ?
Oui, c'est vrai. Alors, parmi les pistes envisagées, il y a ça, demander aux gouverneurs des 50 États de rendre le port du masque obligatoire. Biden veut aussi multiplier de manière importante le nombre des tests, recruter 100 000 personnes chargées de tracer les malades. Lors de sa campagne présidentielle, le démocrate avait promis enfin le déblocage de 25 milliards de dollars pour accélérer les travaux sur un vaccin qui sera gratuit pour tous les Américains, a-t-il juré. Président élu, pas encore au pouvoir, Biden a clairement fait de la gestion de cette crise sanitaire, minimisée par Trump, la priorité de son début de mandat.
Merci Grégory Phillips. Nous vous retrouverons dans un quart d'heure environ sur France Culture encore avec notre invité des matins, l'historien Justin Weiss, pour évoquer encore une fois les conséquences de ce renouveau à la tête des États-Unis. Les 4 dossiers prioritaires de Joe Biden sont également détaillés sur notre site internet franceculture.fr. Et puis je précise parallèlement que Donald Trump, lui, pendant ce temps, serait toujours à la Maison-Blanche en ce moment, après 2 sorties sur des terrains de golf ce week-end. Le président, toujours président, promet de tout mettre en œuvre pour contester l'élection de Joe Biden. Et voilà aussi une des conséquences du changement de locataire à la Maison-Blanche, changement annoncé pour janvier prochain. L'opposition biélorusse en appelle aux États-Unis. Hier, plus de 800 personnes ont été arrêtées à Minsk, car elles protestaient contre l'élection du président Loukachenko en août dernier. La chef de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, demande le soutien de Joe Biden, Léo Vidal-Giraud.
J'espère que le président des États-Unis rencontrera bientôt la présidente légitime d'un Biélorusse nouveau et libre. Depuis son exil en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaya, ancienne candidate à l'élection présidentielle biélorusse et chef de facto du mouvement d'opposition, lance des appels du pied au nouveau président élu américain. Façon sans doute de tenter d'attirer à nouveau l'attention sur la situation dans son pays. Depuis 3 mois, les Biélorusses descendent en masse dans les rues tous les week-ends pour protester contre la réélection entachée de fraude massive d'Alexandre Loukachenko. Mais de grèves générales, à chaque fois brisées, en ultimatum systématiquement ignorées, ce mouvement se heurte à la résistance du régime qui continue de faire bloc. La répression s'intensifie et la pression internationale, les sanctions, les condamnations n'y ont jusqu'à présent rien changé. Alexandre Loukachenko, visé personnellement la semaine dernière par des sanctions de l'Union européenne, a réaffirmé sa volonté de s'accrocher au pouvoir et menacé de faire ouvrir le feu sur les manifestants. Aucun signe de sa part de vouloir rechercher une sortie de crise. Mais l'élection de Joe Biden, moins indifférent aux affaires européennes que ne l'était Donald Trump, redonne espoir aux opposants biélorusses.
Autre dossier européen qui pourrait évoluer avec l'élection de Joe Biden, le Brexit. Une nouvelle semaine de négociations s'ouvre ce lundi à Londres et certains observateurs estiment que Boris Johnson comptait sur la réélection de Donald Trump pour défendre un no deal, une sortie sans accord économique. Reste à savoir si le Premier ministre britannique changera ou non de position. À l'échelle européenne aussi, notons cette réunion aujourd'hui des ministres européens liés au commerce extérieur. Parallèlement aux relations transatlantiques, il sera question ce lundi de l'accord commercial avec le Mercosur. Un accord remis en cause par Emmanuel Macron qui refuse toujours de le ratifier.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Jean-Luc Mélenchon se déclare candidat à la présidentielle de 2022.
C'était hier soir lors du journal de 20h sur TF1. Le chef de file des Insoumis pose malgré tout une condition à cette candidature. Réunir 150 000 signatures pour une investiture populaire, ce sont ses mots. La France Insoumise a officiellement 600 000 adhérents. Il y a donc peu de suspense sur cette candidature. Nous y reviendrons. Mais d'abord, Stéphane Robert, cette déclaration est assez précoce.
Jean-Luc Mélenchon a hésité avant d'officialiser cette candidature à cause de l'épidémie de Covid-19, mais il est semble-t-il arrivé à cette conclusion que si l'épidémie doit durer, il n'y a pas et il n'y aura pas de bon moment pour se déclarer. Il se lance donc, et encore une fois très tôt, dans la course. Pour la présidentielle de 2017, il avait annoncé sa candidature en février 2016, un peu plus d'un an auparavant. Cette fois, nous sommes à un an et demi de l'échéance. À 69 ans, Jean-Luc Mélenchon se prépare pour une troisième campagne consécutive. Avec l'espoir de renouveler la performance de 2017, il était arrivé quatrième, mais avec presque 20% des suffrages, il avait, comme François Fillon, frôlé la qualification pour le second tour. Quatre ans plus tard, cependant, son image dans l'opinion a terni. L'épisode des perquisitions au siège de la France Insoumise en octobre 2018 a laissé des traces. L'emportement avec lequel il avait clamé « La République, c'est moi » a renvoyé l'image d'un personnage mégalomane qui a du mal à maîtriser ses nerfs. Malgré ça, il estime encore une fois être le mieux placé à gauche, ce que semble d'ailleurs accréditer une enquête IFOP réalisée en octobre qui le place au-delà des 10% d'intention de vote. Pour tenter d'asseoir sa légitimité, il lance une procédure de parrainage auprès des Français afin de recueillir 150 000 signatures. C'est uniquement s'il les obtient, a-t-il dit hier soir, qu'il sera officiellement candidat. Ça paraît peu comparé aux 7 millions de voix du premier tour de la présidentielle en 2017. Et le seuil paraît d'autant moins difficile à atteindre qu'il n'a fixé aucun calendrier, aucune échéance pour obtenir ses soutiens.
150 000 parrainages citoyens donc pour chercher, je cite, un élargissement par rapport à ce qu'est aujourd'hui la France insoumise. C'est ce que disait hier en explication de texte le député insoumis Éric Coquerel. Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel dit lui respecter ce choix. Les communistes, écrit-il, feront le leur en temps voulu. Fabien Roussel qui rappelle comme d'autres d'ailleurs la priorité donnée actuellement à la lutte contre le Covid-19. Un pèlerinage sans public, 50 ans après la mort du général Charles de Gaulle, Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Colombey-les-Deux-Églises, le village de Haute-Marne où s'était retiré l'ancien président, et ce après son départ de l'Élysée en 1969. Et il n'y avait pas, sous le général de Gaulle, ces tablettes numériques sur lesquelles on peut dévorer un roman ou découvrir un recueil. Je vous parle là des livres numériques. Alors que la colère enfle chez les libraires pour cause de reconfinement, le livre numérique connaît, lui, une nouvelle envolée. Il n'y a pas d'ailleurs que chez Amazon ou sur le site de la Fnac que ça fonctionne. La preuve avec ce reportage d'Anne Lamotte.
Sa librairie de quartier est fermée, qu'importe. Christine, parisienne, garde le sourire. D'abord, il y a le click and collect, et puis...
J'ai une liseuse, je télécharge des livres sur ma liseuse.
Le livre numérique en plein boom. C'est le constat des plateformes que nous avons pu joindre, comme la française Vivlio, qui propose d'acheter et de télécharger des e-books sur liseuse, mais aussi sur ordinateur, tablette ou smartphone. David Dupré est son directeur général.
On fait normalement entre aux alentours de 25 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et sur ce week-end, on a été à plus de 50 000 euros au jour.
Un chiffre d'affaires qui passe du simple au double donc. Ainsi, le schéma du premier confinement semble se répéter. Vivlio avait alors enregistré une hausse de ses ventes de liseuses de 50%, de ses livres numériques de 80 à 88%. La moitié des acheteurs étaient de nouveaux clients. Appâté par quoi ?
En un, on avait la romance et la littérature érotique. En deux, la littérature française. Et en trois, les polars et thrillers. Vous pouviez très bien lire le tome 1 d'une série que vous terminiez à 21h et enchaîner sur le tome 2 en 3 clics. Donc je pense que ce mode de fonctionnement était plutôt adapté au confinement.
Et après le confinement, Vivlio assure que ses ventes de livres numériques sont restées en moyenne 35% au-dessus de la normale. En revanche, d'autres plateformes comme Bookin, par exemple, affirment qu'en 15 jours seulement, les chiffres étaient redevenus quasiment les mêmes que ceux de l'année dernière.
Et notez par ailleurs que le libraire et cofondateur du réseau Librest était ce matin l'invité de France Culture pour la question du jour, à réécouter sur notre site ou bien en podcast. C'est un temps automnal qui nous attend ce lundi avec des brouillards matinaux, de la grisaille, de rares éclaircies, quelques pluies et orages arrivent par l'ouest. Ce matin, il fait 7 degrés à Strasbourg, 11 à Lille et Paris, 13 degrés à Bordeaux, 17 à Marseille et sur la Corse.
Merci Clara Lecoq-Réal. 8h15 sur France Culture. Dans 30 minutes, vous retrouverez mes camarades Hervé Gardat, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte. Et puis on va beaucoup parler de politique. Politique aux États-Unis avec l'élection de Joe Biden et ses conséquences. Nous serons en compagnie de l'historien Justin Weiss, qui est fondateur et directeur du Forum de Paris sur la paix. Et puis, nous serons également en ligne avec notre envoyé permanent aux États-Unis, Greg Phillips, et puis de la politique en France avec vous, Frédéric Seyss. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Qu'est-ce que l'élection de Joe Biden va changer pour la France ?
Voilà la question qu'on va se poser dans un instant.
Allez, à tout de suite.